Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Thomas Rozek. Sans trop m'avancer, je pense que comme moi, la plupart d'entre vous, quand on leur parle du Sénat, ont assez rapidement en tête cette image pas très reluisante d'une assemblée de vieux messieurs bedonnants, suivant d'un œil mi-clos des débats d'une ardeur toute relative quand ils ne piquent pas carrément un petit somme après un déjeuner qui nécessairement aura été long, copieux et arrosé. C'est comme ça, le cliché du sénateur, notable ultime vestige de la bourgeoisie d'État, traîne encore dans pas mal d'esprits. Et pourtant, figurez-vous que sous ces dehors d'épates de la République, le Sénat est bien plus surprenant qu'il n'y paraît. Il s'illustre surtout, si on y regarde de plus près, par sa propension à tenir tête au gouvernement. Par exemple, lors de l'affaire Benalla, où la commission d'enquête du Sénat a tout sauf épargné l'exécutif. Ou plus récemment, lorsqu'Édouard Philippe, le Premier ministre, est allé faire son discours de politique générale face aux parlementaires qui ont choisi de ne pas lui accorder leur confiance. Un petit doigt d'honneur qui nous a donné envie de nous interroger. Les sénateurs sont-ils les derniers punks de la 5ème République? Ou au moins le dernier contre-pouvoir qu'il nous reste? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Pour démarrer, quelques bases théoriques, parce que bon, je me moque des clichés associés au Sénat, mais c'est pas pour autant que je maîtrise à fond l'intégralité des enjeux rencontrés par la vénérable institution. J'ai donc appelé à la rescousse Vincent Boyer, il est juriste, maître de conférences en droit public à l'Université de Bretagne Sud, et je lui ai demandé, histoire de commencer très fort, ça sert à quoi le Sénat ?
En tant qu'assemblée parlementaire, il participe au travail législatif. En tant qu'assemblée parlementaire également, il participe au contrôle de l'exécutif et enfin à l'évaluation des politiques publiques. Alors sur le travail législatif plus précisément, l'idée de l'existence d'une seconde chambre, c'est d'améliorer la qualité de la loi. Deux regards sur un même texte législatif valent mieux qu'un seul regard sur un texte législatif. Du point de vue du contrôle de l'exécutif, là encore, la mission du Sénat, c'est de contrôler l'exécutif. On en a vu au travers, par exemple, des commissions dans le cadre de l'affaire Benalla, même s'il n'a pas la possibilité de renverser le gouvernement. Donc, c'est un second regard sur la loi, c'est un contrôle sur l'exécutif. L'idée que l'on a parfois de la seconde chambre, c'est de tempérer les emportements de la majorité à l'Assemblée nationale. Et c'est dans ce sens-là qu'on retrouve cette idée de contre-pouvoir. Et dernière de ces fonctions, le Sénat est censé être le représentant des collectivités territoriales, ce qui se traduit notamment par son mode d'élection au suffrage universel indirect.
Comment est-ce que le Sénat est devenu cette espèce de contre-pouvoir permanent, en tout cas on a la sensation qu'il est devenu une forme de contre-pouvoir. Est-ce que ça a toujours été le cas ?
Alors, il faudrait déjà définir ce qu'est un contre-pouvoir, et la chose n'est pas
forcément facile.
Non, n'est pas facile, parce que c'est une notion, on va dire, une notion doctrinale qui n'est pas définie dans le droit positif. Montesquieu définit un contre-pouvoir comme la faculté de statuer, la faculté d'empêcher, mais il n'y a pas de définition en droit positif. Alors certains auteurs ont tenté de définir ce qu'est un contre-pouvoir, notamment à partir de deux critères. Un contre-pouvoir doit être institutionnalisé, un contre-pouvoir doit être efficace. Et donc si on retient cette définition, le Sénat est institutionnalisé, et toute la question est de savoir si le Sénat est efficace. Est-ce qu'il joue ce rôle de contre-pouvoir ? Donc, les avis sont partagés sur la question, mais il est vrai que généralement, on présente le Sénat sous la 5ème République comme un contre-pouvoir au bloc majoritaire. Parce que très rapidement, sous la 5ème République, le Sénat s'est opposé au général de Gaulle lorsqu'il a voulu réformer le mode d'élection du, du président de la République. Et le Sénat était le fer de lance, on va dire, de l'opposition au général de Gaulle. Et donc, on a ensuite cette idée, finalement, que le Sénat est un contre-pouvoir sous la Ve République. Cette idée s'est diffusée, même si, à mon avis, elle peut être largement discutée.
Il y a un fait historique qui est clair et net, c'est que celui qui s'attaque au Sénat peut y laisser beaucoup de plumes. C'est notamment le cas du général de Gaulle, on en parlait à l'instant, qui, on va dire, sa démission a été directement entraînée par sa volonté de réformer le Sénat, de le supprimer.
Il est vrai que ceux qui s'attaquent au Sénat, on peut prendre l'exemple du général de Gaulle, on peut prendre l'exemple de Lionel Jospin aussi, qui avait évoqué, s'agissant du Sénat, d'anomalies parmi les démocraties, et à la suite, il n'avait pas été présent au second tour de l'élection présidentielle. Donc il est vrai que ceux qui s'attaquent au Sénat, l'histoire nous le montre, l'histoire de la Ve République nous montre que la suite pour eux n'est pas forcément celle qu'ils attendaient. Là encore, pour le général de Gaulle, effectivement, en 1969, il souhaite réformer le Sénat et le référendum est négatif, et ce qui va entraîner la démission du général de Gaulle. Pour autant, il ne faut pas perdre de vue qu'en 1969, le référendum ne porte pas que sur la réforme du Sénat.
Oui, il y a la question des régions aussi.
Ouais, voilà. Donc, ce n'est pas que la question du Sénat. Mais il est vrai que, voilà, si on a plusieurs exemples sous la Ve République de personnalités politiques au pouvoir qui se sont opposées au Sénat, et au final, le Sénat est resté et eux ont quitté le pouvoir ou n'ont pas accédé au second tour de l'élection présidentielle. C'est le cas de Lionel Jospin.
C'est quoi les grands enjeux en ce moment pour le Sénat, notamment, je parle là en termes d'institution, pour son maintien, on va dire, dans le paysage institutionnel français?
Le Sénat ne jouit pas forcément d'une bonne image auprès de l'opinion publique. On a toujours cette idée qui est largement répandue, selon laquelle les sénateurs, ce sont des parlementaires âgés qui ne font pas forcément grand-chose, même si cette idée peut être largement remise en question. Mais on a souvent, pour schématiser, cette idée en tête. Et donc, tout l'intérêt pour le Sénat, c'est de montrer son utilité. C'est de montrer qu'il est utile au fonctionnement des institutions sous la Ve République. Et notamment, on l'a vu au travers de l'affaire Benalla, le Sénat a joué son rôle, qui est de contrôler l'exécutif au travers des commissions d'enquête, mais il a mis en avant ce rôle pour justement montrer qu'il était utile dans le fonctionnement des institutions. Parce que la réforme du Sénat, la question de la suppression de la réforme du Sénat, c'est une question récurrente sous la Ve République. Et même, je dirais, plus loin, il est intéressant de noter que depuis 1789, depuis la Révolution française, le bicamérisme, c'est-à-dire l'existence de deux chambres au sein du Parlement, le bicamérisme s'est très largement imposé en France. Il n'y a eu que de très rares épisodes dans notre histoire constitutionnelle qui ont été marqués par le monocamérisme, c'est-à-dire l'existence que d'une seule chambre. Donc, le bicamérisme s'est très largement imposé dans l'histoire constitutionnelle française, et pourtant, cette question de la seconde chambre, de son rôle, de son utilité, de son maintien, cette question, c'est l'une des plus récurrentes, des plus controversées du droit constitutionnel français. Et le Sénat, donc, la question de l'existence du Sénat, de sa justification, se situe dans cette lignée de questionnement récurrent sur l'utilité de la seconde chambre en France.
Maintenant, reste à savoir comment les sénateurs eux-mêmes perçoivent leur rôle. Le plus simple, c'est évidemment de leur poser la question. J'ai donc allé jusqu'au palais du Luxembourg rencontrer Éric Kerrouche, sénateur PS des Landes, un petit jeune dans le métier, d'une part parce qu'il n'a que 51 ans, et la moyenne d'âge de l'institution, c'est 61 ans, et surtout parce qu'il n'a rejoint le Sénat qu'en 2017. Par contre, il en avait déjà une vision assez précise de par ses fonctions précédentes, puisqu'il est par ailleurs politologue, directeur de recherche au CNRS. Je suis allé dans son bureau.
Eh bien écoutez, je vais pousser votre bonsaï.
Et je lui ai demandé pour démarrer s'il avait eu la sensation, en arrivant au Sénat il y a 18 mois, de rejoindre un lieu de contre-pouvoir.
J'avais le sentiment de rentrer dans une deuxième chambre qui a cette tradition d'impertinence. Alors je ne sais pas si c'est juste un contre-pouvoir, mais en tout cas c'est quelque chose qui contribue à l'équilibre des pouvoirs.
Justement, vous parlez de cette tradition d'impertinence. C'est pas forcément l'image qu'a le Sénat. Alors peut-être au sein du corps politique un peu plus, mais là je vais parler de mon simple point de vue de citoyen et d'électeur. C'est pas exactement l'image que j'avais du Sénat jusqu'à ce que je me penche un peu plus sur la question. Pour moi, c'était une institution justement assez vieillissante et assez tranquille, pour le coup. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'il y a cette espèce de dichotomie entre la réalité de ce qu'est le Sénat et la perception que peut en avoir le public ?
Première chose, c'est le mode d'élection. Ouais. Dans la mesure où les citoyens ne se prononcent pas directement sur le choix des sénateurs, c'est une institution qui paraît tout simplement lointaine, spécialisée et, en effet, un peu vieillotte. Ce qui est très paradoxal, parce qu'en fait, quand on compare les renouvellements à part le dernier, de l'Assemblée nationale et du Sénat, dans le temps, le Sénat évolue beaucoup plus vite que l'Assemblée nationale. Donc là, il y a eu une transformation avec les précédentes élections, mais par exemple, le taux de féminisation a beaucoup progressé au Sénat. Par exemple, également, on se rend compte que le renouvellement étant triennal, il y a un rajeunissement qui est effectif aussi de l'institution sénatoriale, même si elle est moins prononcée désormais que à l'Assemblée nationale. Donc, c'est une institution qui se transforme beaucoup plus vite qu'on ne le croit et qui s'adapte assez facilement. Mais en effet, reste l'apparence et la perception, puis le sentiment que, comme l'Assemblée nationale systématiquement est sous les feux de la rampe, eh bien, on a une institution qui est à côté. Mais ça n'empêche pas de travailler.
Il y a une constante un peu dans la Ve République, c'est que beaucoup de présidents ont tenté de s'attaquer au Sénat, en tout cas de soit de le transformer, soit carrément de le supprimer. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'il y a toujours eu cette espèce de bras de fer entre l'exécutif, donc dans ce qu'il a de plus supérieur, c'est-à-dire le gouvernement, l'Élysée, et le Sénat?
Alors effectivement, il y a eu des échanges très très violents entre Gaston Monnerville et le général de Gaulle. Ça a marqué un petit peu les relations entre l'exécutif et le Sénat pendant très longtemps. Ce qui fait, c'est tout simplement que le gouvernement arrive, qu'il a souvent, la plupart du temps, une majorité à l'Assemblée nationale et qu'il veut mettre en place son programme. Et qu'à côté, on a une institution qui, bien souvent, n'est pas de la même couleur, le Sénat, ou qui est de la même couleur, mais qui n'a pas la même conception, et qui se place dans la perspective un petit peu de... ou est perçu par le gouvernement comme quelque chose qui met du retard dans la procédure législative, alors que les temporalités politiques sont extrêmement courtes. Quand on n'a que 5 ans pour mettre en place son programme, eh bien on ne supporte pas de pouvoir être arrêté. Pourtant, c'est le jeu de la démocratie.
Mais vous-même, vous aviez la sensation, je parlais c'est un peu cette image d'Épinal du Sénat, un peu ronronnant, un peu vieillissant. Vous-même n'ayez pas de crainte avant d'y aller, avant d'y être vous-même, de retrouver cette ambiance peut-être un peu tranquille et qu'il n'y ait pas beaucoup d'action finalement.
Alors ça c'est vraiment l'apparence, parce que dans les faits, les échanges politiques sont aussi violents au Sénat qu'ailleurs. Mais peut-être que la tonalité est différente. Ça n'empêche pas que les coups soient portés par ailleurs. Donc il faut se méfier de cette apparence. Et moi, je souhaitais aller au Sénat parce que dans ma profession, j'ai pu comparer le travail législatif de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et je sais que, s'agissant du Sénat, on est beaucoup plus sur le fond, et c'est ce qui m'intéressait.
Qu'est-ce qui explique justement que le Sénat soit plus porté sur le fond que l'Assemblée nationale ? Est-ce que c'est justement cet éloignement des projecteurs, ce qu'on évoquait tout à l'heure, le fait que les députés, eux, soient constamment sous le feu de la presse, des médias, et donc soumis à une espèce de pression qui les pousse à aller très vite, parfois en oubliant le fond, et que le Sénat est plus justement plus en retrait et a plus le temps de se pencher sur les choses ?
Il y a aussi la structuration même du mandat de député qui fait qu'il y a un investissement nécessaire dans la circonscription et qui est un investissement de tous les jours et sur tous les domaines, parce que les députés ne savent pas quel domaine rapporte le plus électoralement. Et donc, ils sont obligés de s'engager dans une multitude d'activités de façon assez frénétique, c'est prouvé par les différentes études qui sont disponibles. Et donc, ça empêche l'activité comme on peut l'avoir au Sénat. Non pas qu'on ne soit pas sur le terrain, mais quand on va voir essentiellement des collectivités, des entreprises, on a un rythme qui est différent de celui de l'Assemblée nationale et qui permet en effet d'aller plus sur le fond, sachant que par ailleurs, c'est la tradition, les rapports, c'est aussi la tradition du Sénat.
C'est-à-dire ?
Alors, les rapports, si vous voulez, en fait, sur tous les domaines, chercher des renseignements précis, vous allez sur le site du Sénat et vous avez une multitude de productions qui, la plupart du temps, sont de très bonnes factures. Et on a vraiment des réflexions de fond, des informations de fond qui permettent de nourrir, justement, la pensée législative. Et je crois que c'est aussi à ça qu'on sert, c'est se mettre différemment, avoir une posture différente par rapport à l'activité législative en tant que telle.
Bon, alors en général, maintenant, je crois qu'il faut en arriver à cette fameuse réforme du Sénat dont il est indispensable de parler, à cette rénovation, à cette refonte du Sénat. Vos adversaires disent « mort du Sénat si le projet est adopté ». Et puis, il y en a même qui prétendent que vous avez une sorte de compte personnel à régler avec le Sénat. Pour le Sénat, la belle époque, ce fut la Troisième République. Car alors la Haute Assemblée, composée de notables politiques locaux, au minimum quadragénaires, avait par rapport à la Chambre issue du suffrage universel des pouvoirs identiques. Actuellement, le rôle que joue le Sénat est absolument accessoire.
Comment est-ce que vous voyez potentiellement, je ne vais pas vous demander de jouer les Nostradamus évidemment, mais potentiellement l'avenir du Sénat dans les années qui viennent? Il y a beaucoup, encore une fois, on l'évoquait tout à l'heure, pas mal d'intentions qui se dessinent du côté de l'exécutif, de faire changer les choses en termes du côté du corps législatif, là pour le coup. Comment est-ce que vous voyez les choses se dessiner potentiellement?
Alors, moi je comprends encore une fois, hein, sachant que le président de la République, celui qui est actuellement en poste, est particulièrement impatient, pour le coup, il y a une volonté de mettre au pas le Sénat. Alors, manque de chance, la Constitution ne lui permet pas de le dissoudre. Bon, il peut essayer par différentes mesures, mais je crois que ça sera difficile. Parce que c'est une institution qui est relativement résiliente, enfin, du moins, elle l'a montré dans le passé. Et puis, globalement, on peut dire qu'on a un retour du bicaméralisme en Europe. Un retour des différentes secondes chambres qui, la plupart du temps, représentent justement les territoires. Et il y a une demande de représentation territoriale. C'est très bien qu'il y ait une majorité politique dans un pays. Quand elle est choisie, il n'y a pas de problème pour qu'elle mette en œuvre sa politique. Mais une politique centralisée, sans prise en compte des territoires, ce n'est pas une politique qui marche à tous les coups, et on vient de le voir ces derniers mois. Alors, on peut faire plein de déclarations fracassantes, on peut essayer de mettre la pression. Il n'en demeure pas moins que, dans les faits, c'est très compliqué de remettre en cause le Sénat. Alors, il y a plein de possibilités éventuellement, par exemple, celle d'un référendum constituant. Je n'ai pas l'impression que le président de la République veuille se lancer dans cette aventure. Puis, je crois qu'il y a tout simplement, il y a le quotidien, il y a d'autres choses à faire. On peut se tourner sur on peut regarder les institutions, essayer d'en faire quelque chose, les améliorer, etc. Mais je crois franchement pas que c'est ce qui est attendu actuellement par la population, qui a d'autres priorités. Donc, est-ce qu'il faut dépenser autant d'énergie dans des sujets qui, quand même, pour les Français, sont tout à fait périphériques?
Mais tout de même, est-ce que le Sénat ne pâtit pas d'un léger déficit d'image et ne mériterait pas de se montrer un peu plus, d'expliquer un peu plus son rôle et sa manière de fonctionner? Ou alors est-ce que c'est justement prendre le risque de perdre ce qui lui permet de travailler sur le fond, c'est-à-dire une relative tranquillité, ou en tout cas le fait que l'attention médiatique soit plutôt portée sur les députés?
Je crois que c'est le cas de toutes les institutions. On a vraiment un problème de fonctionnement, parce que quand on regarde la façon dont les Français jugent leurs institutions, de la commune, peut-être un peu moins, et encore jusqu'au gouvernement en passant par les assemblées, il y a un problème de représentation, il y a un problème de confiance qu'il ne faut pas nier. Donc, ce n'est pas la question du Sénat, c'est la question du système politique en général. C'est là le nœud. Alors après, bien sûr, parfois, on peut nous faciliter la tâche, mais je ne suis pas sûr là, que cet été, on aura un deuxième Alexandre Benalla. Mais singulièrement, cette expérience particulière montre que tout simplement, de temps en temps, un peu comme aux États-Unis, c'est important d'avoir un contrepoint. Il n'y a pas qu'une vérité politique. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on est politiquement majoritaire qu'on a juridiquement raison.
Sur le chemin du retour, Eva Gaïa, la collaboratrice parlementaire d'Éric Kerrouche, m'a envoyé par message une citation de Charles Pasqua qui, pour eux deux, résumait bien l'état d'esprit de l'institution. À l'Assemblée, on tue avec le poignard. Au Sénat, on empoisonne avec le sourire. Voilà. Merci à Vincent Boyer et Éric Kerrouche pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.